Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bah après, c'est 7 ans, je pense, comme beaucoup de personnes qui commencent leur carrière à l'étranger, il y a eu l'appel de rentrer au Maroc pour s'y installer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce rôle-là parce que j'avais face à moi un public pâte à modeler qui est encore jeune, ouais. Une vingtaine d'années, qui n'a pas encore les billets de l'entreprise, qui a encore ses rêves. Le fait de se trouver, de trouver sa voie, de trouver du sens. Mais je pense qu'il faut relativiser ce discours-là et réinvestir le travail à sa juste place.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invitée aujourd'hui, c'est Sana Belgarj. Elle est consultante, coach professionnelle certifiée, mais aussi enseignante à son actif des années d'expérience et d'expertise, notamment dans le monde du conseil en gestion et en système d'information. Sana Belgarj, bonjour. Ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Karima, merci pour l'invitation.
Tout le plaisir est pour moi, Sana. Donc une carrière, on le sait, c'est en quelque sorte un parcours, un processus. Comment votre histoire professionnelle a commencé ? Ramenez-nous à vos premiers pas dans l'univers professionnel. Vous avez fait quoi ?
Mes premiers pas ont commencé de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, après un MBA en gestion des technologies de l'information. Mmh. Et j'ai commencé à l'époque comme consultante dans une grande compagnie de conseil en technologie de l'information qui est CGI, une compagnie canadienne.
D'accord.
Et donc j'intervenais comme consultante auprès des organisations gouvernementales, majoritairement ministères, agences gouvernementales, pour les accompagner soit dans la modération de leur processus de fonctionnement, soit dans l'implantation des systèmes d'information qui supportent ces processus, ou encore dans des projets d'accompagnement au changement.
Et ça a duré combien de temps, cette étape, en quelque sorte ?
Alors, cette étape a duré 7 années, 3 ans à Québec, à la ville de Québec,
d'accord.
Et 4 ans à la ville de Montréal.
D'accord. Et après ces 7 ans, la suite, comment se sont enchaînées les choses après ces 7 ans dans cet univers ?
Après ces 7 ans, je pense comme beaucoup de personnes qui commencent leur carrière à l'étranger, il y a eu l'appel de rentrer au Maroc pour s'y installer. Donc c'est ce que j'ai fait. En 2007, je suis rentrée au Maroc pour me rapprocher de la famille, tout simplement. Et j'ai continué à œuvrer, mais cette fois-ci de façon indépendante, comme consultante indépendante, dans des sujets un peu plus généralistes, où j'ai accompagné des acteurs de différents secteurs, parce que le Maroc est un marché plus généraliste que le marché canadien. Mmh. Donc là, que ce soit dans le monde du tourisme, de l'assurance, dans l'industrie également, de grandes boîtes industrielles actuellement. Et ici, là, donc, même le type d'intervention était plus généraliste également.
D'accord.
Donc, ce n'était pas uniquement des projets de système d'information. J'ai touché des projets d'organisation, donc tout ce qui est réorganisation, à de la gestion de projets, à de l'accompagnement au changement toujours, et à des études de faisabilité, des études d'opportunité pour les différents clients. Donc ça, ça a duré 7 ans également, donc à Casablanca.
7 ans. Est-ce que le 7, ça ne serait pas votre chiffre porte-bonheur ? Parce que là, c'est...
je me suis posé la question, oui, effectivement, est-ce que j'ai des cycles de 7 ans ? Mais le cycle d'après va y déroger, on va en parler.
D'accord,
mais le cycle
d'accord.
D'après va durer moins de 7
donc,
ans.
Donc ce n'est pas jamais 203 cette fois.
non, pas cette fois.
D'accord, d'accord. Et Sana, est-ce qu'il y a eu justement... Un moment marquant, un déclic, le jour peut-être où vous vous êtes dit « c'est bon, je sais maintenant ce que je veux faire, je fonce ».
Alors, le déclic, c'était pas sous cette forme-là, c'était pas sous la forme de « je sais ». Ce que je veux faire, c'était sous cette forme « je ne veux plus faire ce que je fais ».
Ouais, c'est encore meilleur.
Alors, c'était en 2016, j'étais donc en mission chez un client local et j'étais en perte totale de sens par rapport à ce que je faisais, c'est-à-dire que j'intervenais sur un gros projet, j'étais bien payée. Le client était satisfait du travail, mais moi, je n'avais pas l'impression que j'avais un impact réel et que c'était une mission d'accompagnement au changement, je n'avais pas l'impression que j'accompagnais les changements. Parce que dans des grands projets, le lien avec l'impact se perd avec la grandeur des équipes. C'est là, c'est une équipe de 40, 50 personnes. Mmh. Donc, le lien avec l'impact se perd. Donc, c'était en 2016. Et donc là, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas encore, je ne peux pas le formuler, savoir exactement ce qui ne va pas. Mmh. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas heureuse de pratiquer le conseil tel que je le fais à ce moment-là. Donc, il y a un malaise. Il n'y a pas d'objectif précis, il y a simplement un malaise. Et donc, face à ce malaise, on décide de partir en famille, de repartir au Canada pour une année sabbatique. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, je sais juste que je ne peux pas continuer de la même manière. Donc, quand je repars en 2016 au Canada, donc voilà.
Et vous repartez, vous avez cette sensation de ne plus peut-être appartenir en quelque sorte à l'univers professionnel que vous connaissiez jusque-là. Vous faites quoi justement pour contrer ce malaise ou pour y remédier ?
Bah, en fait, nous partons en famille à Montréal, on se dit on va prendre une année sabbatique. Et en fait, cette année-là va durer 5 ans. D'accord. Donc ça ne va pas être que du sabbatique.
Pas 7 ans ?
Non, pas 7 ans. Covid oblige, je vous en parlerai plus tard. Oui, pas 7 ans, ça aurait pu durer plus longtemps, mais avec le Covid, ça a changé la donne. Donc, je repars et puis je décide de reprendre les études.
D'accord.
Donc, je fais en même temps un cursus universitaire à HEC Montréal où je fais une maîtrise en supply chain management. Qui est un domaine qui est quand même connexe au système d'information parce qu'il y a quand même la gestion des opérations, l'amélioration des opérations, des processus, des lignes de production. Ouais. C'est quelque chose qui est connexe. Et je me dis, je vais m'inscrire aussi à une formation de coaching professionnel, mais je le prenais plutôt pour moi, plus pour mon propre développement personnel. Donc à l'époque, j'étais quand même un peu sceptique par rapport au coaching. Il y a beaucoup de coachs, plus ou moins compétent sur le marché. Et donc, je me disais, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Je vais le faire juste pour moi-même, pour voir. Donc, deux ans d'arrêt total. D'accord. Deux ans d'arrêt total, c'est-à-dire où je me consacre uniquement aux études, donc à la double voie, la double diplomation dont je vous ai parlé. Donc, voilà. Donc, après ces deux ans, se pose la question, qu'est-ce que je vais faire?
Ouais.
La question est toujours là après deux ans et je rencontre en fait quelqu'un qui est en formation avec moi en coaching et qui, c'est un monsieur, je pense qu'il a 70 ans actuellement, qui est avec moi, qui a roulé sa bosse et qui est consultant coach et qui me dit, est-ce que tu veux intervenir avec moi sur une mission de conseil où tu vas devoir utiliser aussi tes compétences de coach? Donc, je suis sceptique. Il m'a dit, essaye. Écoute, je suis très sceptique. Je lui dis, comment on peut concilier les deux? Le coaching, c'est une démarche d'écoute, beaucoup plus d'humilité, où on rend la responsabilité au client. Tandis que le conseil, c'est une démarche d'expertise.
Ouais.
Où on est en mode beaucoup plus directif. Donc, j'étais très sceptique. Je me suis dit, encore un concept blabla. Il m'a dit, je me rappelle de cette phrase qui m'a marquée, je te demande pas de me croire, je te demande de l'essayer. Et là, je lui dis, OK, écoute, on va essayer ça. Donc, et j'ai démarré chez un client québécois, toujours dans le milieu gouvernemental, sur un projet pour aider une direction, deux directeurs, à mieux gérer leur direction en faisant la refonte des processus. Et je découvre sur le tas, donc par l'expérience, qu'il est effectivement possible, mais surtout très bénéfique, d'intégrer une posture de coach dans le cadre d'une mission de conseil. C'est-à-dire que en l'essayant, je me rends compte que c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord une écoute qui est autre, qui n'est pas celle du consultant. Il y a une écoute qu'on met au service du client qui est beaucoup plus globale, qui permet de voir la personne, mais aussi l'organisme et les enjeux dans leur globalité.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on m'appelle aujourd'hui, je commence toujours par questionner dans une mission de conseil, par questionner la motivation profonde. Parce que, par exemple, des fois, le client va venir dire « j'ai besoin d'un diagnostic sur telle affaire ». Ok, mais si quand on pose la question au client, en quoi c'est important pour vous d'avoir un diagnostic? Qu'est-ce que cela va permettre pour vous et pour votre équipe? On permet une prise de recul plus grande. La magie, c'est de switcher entre les deux casquettes, en fait. C'est d'avoir cette écoute et d'utiliser ses outils de coach quand il le faut,
ouais.
mais de switcher dès rapidement vers la casquette de coach et faire bénéficier le client de l'expertise qu'on a eue avec d'autres clients. Donc c'est cet aller-retour-là entre les deux casquettes qui m'a permis de me réconcilier avec le métier de consultant. En fait, ce qui me manquait, c'était ça, c'était cette prise de recul. Mais ça demande aussi une certaine sécurité psychologique en tant que consultant. C'est-à-dire que cette humilité-là qu'on a en tant que coach, le fait de dire au client en quelque sorte « c'est toi qui connais tes problèmes
ouais. »,
pour l'avoir, ça demande d'être dans une certaine sécurité psychologique soi-même pour ne pas être insécurisé par la posture de « dis-moi, je ne sais pas tout ».
Bien sûr, ouais, ça change tout.
Ça change tout. Donc ça, c'est pour le côté conseil. Donc ça, c'est une nouvelle approche. Du conseil que je pratique et qui me satisfait beaucoup plus, qui me réconcilie avec les missions de conseil. J'ai aussi une pratique de coach privé, c'est-à-dire en B2C, avec les personnes que j'accompagne surtout dans les transitions professionnelles, mais aussi sur des problématiques personnelles. Et puis le dernier né, le dernier nouveau-né, bah, c'est l'enseignement en développement personnel que j'ai découvert il y a 8 mois à peu près, enfin en septembre dernier, où en fait je propose des ateliers. C'est pas des cours magistraux parce que bon, c'est du développement personnel, donc ça demande de s'explorer soi-même aux étudiants.
Ouais. Une certaine proximité aussi. Voilà. C'est pas comme les cours.
Ouais, c'est pas des cours. On va pas leur dire voici les 5 étapes pour gérer vos émotions, non. C'est plutôt des mises en situation. Où on leur pose des questions qu'ils n'ont pas l'habitude, des questions de coach justement qu'ils n'ont pas l'habitude de se poser, pour permettre d'avoir un regard nouveau sur des situations difficiles, sur des objectifs qu'ils n'arrivent pas à atteindre, à travers, mais il y a quand même une trame théorique, à travers une trame théorique qu'on leur distille au fur et à mesure de l'atelier. Donc ça, c'est le dernier né, et je suis vraiment tombée amoureuse de ce rôle-là. Parce que j'avais face à moi un public pâte à modeler qui est encore jeune, une vingtaine d'années, qui n'a pas encore les billets de l'entreprise, qui a encore ses rêves, qui sont encore plus proches à toucher que quand on est avec un public plus mature, plus
c'est
adulte.
Vrai, c'est vrai.
Donc voilà.
C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de... Les gens, ils sont beaucoup plus... Les jeunes, plutôt, sont beaucoup plus réceptifs des fois aussi. Parce que le vécu n'est pas le même, il n'y a pas cette résistance. Peut-être qu'on peut retrouver chez des personnes un peu plus âgées, des fois.
Ben, y a pas assez de résistance. Il y a aussi quand même l'enseignant qui a une posture, entre guillemets, d'autorité. C'est-à-dire qu'on te voit comme quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a quelque chose à apporter, qui a vécu. Ben, surtout quand l'enseignant en fait, apporte des exemples de sa vie personnelle. Donc, il n'est plus seulement un enseignant, il essaye d'inspirer les jeunes pour dire « je suis passé par là ». Je comprends. Donc là, déjà, ça assoit une certaine légitimité.
On s'identifie.
Mais aussi, on s'identifie. Et ils adhèrent un petit peu plus facilement, effectivement, que des adultes du même âge dans un milieu professionnel. Parce que le milieu, aussi l'environnement dans lequel on aborde ces questions, peut impacter l'adhésion, plus ou moins. Parce que si vous avez un coach qui vous parle dans votre bureau, dans votre milieu professionnel où vous allez tous les jours, c'est pas le même impact que si c'est vous qui allez voir dans son bureau à la suite d'une démarche personnelle. Et c'est pas la même chose que si vous êtes étudiant et que c'est un professeur qui vous le dit. Même si c'est exactement la même démarche et la même information,
c'est vrai.
Degré d'adhésion est très, très influencé par l'environnement.
C'est vrai. Je vous rejoins parfaitement sur ce point parce que le faire, par exemple, l'enseignement déjà, juste vu qu'on en parle, moi je trouve que c'est très très noble le partage de savoir et de connaissances et le fait d'impacter et d'inspirer d'autres personnes. Je trouve que c'est vraiment l'une des casquettes les plus nobles, qui existe. Le partage de savoir et de connaissances, ça impacte beaucoup de personnes et des fois c'est comme ce qui s'est passé avec vous, la phrase que vous avez retenue et qui vous a impacté le jour où vous alliez sauter le cap du coaching. Vous n'y croyez pas forcément, mais voilà, il a suffi d'une phrase et voilà, pam, le déclic est là et vous vous lancez. Donc c'est la même chose, mais c'est sur du long terme en quelque sorte. C'est quelque chose qui reste.
Exactement, effectivement, en fait, quand je rentrais dans mes ateliers de développement personnel, je me disais s'il y a juste une personne parmi ces 15 personnes-là, c'est des ateliers à effectif réduit. S'il y a une personne, c'est qui j'arrive à allumer quelque chose, qui se dit que quelque chose est possible, qui voit quelque chose différemment, qui se rend compte qu'il n'y a pas de fatalité, juste quelque chose, si j'arrive à allumer quelque chose, chez juste une personne, j'aurais accompli ma mission.
C'est vrai.
Juste ça, ça me suffisait largement, en fait.
Parce qu'en impactant une personne aussi, il y a un petit peu un effet boule de neige. Cette personne va par la suite en impacter d'autres. Et c'est comme ça, en fait.
Bien sûr, on est tous reliés. Oui, on est tous reliés, bien entendu. Oui, tout à fait.
Et avec du recul, Sana, si je vous demandais c'est quoi votre plus beau souvenir professionnel, vous pensez à quoi en premier?
Alors, deux choses. Mm-hmm. Le plus beau souvenir, il n'est pas professionnel, il est relié. Au monde professionnel.
D'accord.
C'est ces premiers mois au Canada après le déclic où je me dis je reprends ma vie en main, je suis libre finalement, je me suis détachée d'un moule que la société impose, j'ai pu le remettre en question, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je l'ai fait, j'ai sauté, j'ai changé de pays, je suis en train de faire quelque chose. Donc ça, c'est un souvenir intérieur, c'est pas un souvenir extérieur. Après, j'ai un souvenir aussi quand je d'avant.
D'accord.
Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que les bons souvenirs arrivent juste après la conversion. C'est pas vrai. Parce que quand on est dans un métier par défaut, il y a aussi des très bons souvenirs, parce que ce métier-là, on l'a quand même choisi pour certaines raisons.
Ouais.
Donc, ce n'est pas tout noir, tout blanc. Pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas tout noir, tout blanc. Et ce souvenir-là, ce bon souvenir-là, il est avec un client québécois de l'époque d'avant le coaching.
Mm-hmm.
Et où ce client-là me rappelle une fois. Donc, j'avais quitté après une mission. Donc, en général, le client me rappelle rarement pour ce genre de choses, et il me rappelle, il me dit on a besoin de prendre une photo,
mmh.
et on veut que tu sois sur cette photo parce qu'on est nominé pour le projet pour gagner un prix au niveau des organismes gouvernementaux, et comme tu as contribué, ben on veut vraiment que tu sois sur cette photo-là. Et moi, pour moi, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même ça dit beaucoup, c'est un acte de reconnaissance, donc c'est un acte d'appartement. Mmh. J'étais chez un autre client, il me rappelle et je reviens, je prends la photo pour pouvoir être... Donc ça, c'est un souvenir, c'est un excellent souvenir pour moi.
Et ça n'a pas de prix, finalement, la reconnaissance et sentir qu'on a eu de l'impact.
Ben oui, ben la reconnaissance va avec l'impact, justement, parce que la reconnaissance, c'est ce qui permet de savoir qu'on a de l'impact, et l'impact, c'est ce qui permet de savoir que ça fait sens, c'est ce qui fait sens, en tout cas pour moi. Un peu.
C'est vrai.
Donc effectivement, c'est la reconnaissance, c'est pas juste flatter l'ego, c'est pas juste se dire « ouais, je suis bon » ou « ouais, j'ai réussi ».
Non, c'est pas aussi platonique que ça.
Oui, c'est vraiment « j'ai fait quelque chose d'utile, j'ai aidé quelqu'un ou j'ai aidé une organisation ». Et c'est plus profond que ça, en fait, ce que ça déclenche à l'intérieur, le fait de recevoir de la reconnaissance.
Et moins fun cette fois, moins drôle, Sana Belgage, c'est quoi le pire souvenir professionnel?
Bah écoute, c'est relié à 2016, justement, le déclic où en fait, je suis dans une réunion avec un client. Et quelqu'un me dit qu'il ne voit pas pourquoi j'assiste à une réunion d'une manière assez... Il ne voit pas l'utilité. Justement, vous voyez, c'est toujours relié à l'utilité, à l'impact. Il dit en fait que j'ai pas ma place dans cette réunion-là. Et moi, j'ai le sentiment, il y a quelque chose qui des fois se passe parce qu'on est consultant, qu'on ne fait pas partie de l'entreprise. Il peut arriver que certaines personnes se permettent, parce qu'on est bien payé, parce qu'on ne fait pas partie de directement du système politique, des évolutions, etc., qu'on peut parler à un consultant parce qu'on paye bien et parce qu'il n'est pas là pour durer. Mmh. Et donc, je me rappelle de ce sentiment-là, de ce sentiment de me dire, bah, en fait, elle ne parle comme une moindre que rien parce qu'elle ne voit pas l'utilité, parce que je suis consultante sous ce format-là. Et donc, ce format-là ne va plus. C'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase, mais c'est une goutte très salutaire, d'ailleurs. Je la remercie. Pour
c'est ça. Un mal pour un bien.
Et donc, ça, c'est un... c'est un souvenir professionnel. Mais en général, c'est à chaque fois, si je veux généraliser, à chaque fois que je fais quelque chose, mais que je n'y crois pas. Généralement, quand je fais quelque chose et qu'au fond de moi, elle est demandée par le client et que lui, il va être satisfait par ce que je vais faire, mais moi, je ne vais pas l'être parce que je n'y crois pas et je ne vois pas l'utilité. Donc, si je devais généraliser, les pires malaises, les pires souvenirs, c'est ceux où je fais quelque chose parce qu'on me demande de le faire
Et que vous n'êtes
parce
pas convaincue.
Il y a la hiérarchie, parce que c'est comme ça qu'on fait, et que je ne suis pas convaincue de l'utilité ou que ça peut réellement aider.
Sana, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce que vous avez un objectif, un next step à partager avec nous?
Moi, je redécouvre le marché marocain. Parce que, donc, en fait, je n'ai pas terminé l'histoire, mais avec le Covid, je suis revenue au Maroc fin 2020, début 2021. Et il y a eu une période où j'ai continué à travailler à distance avec Montréal. Mmh. Et là, en fait, je reprends le contact avec le marché marocain. Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de faire davantage de coaching, davantage de coaching dans le conseil, davantage de développement personnel pour les autres au Maroc.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Sana Belgache, cette fois, un conseil à partager avec celles et ceux qui nous écoutent actuellement et qui seraient, voilà, on va dire, un petit peu coincés sur le plan professionnel, qui ne sont pas épanouis, qui ne se sentent pas à leur place. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire brièvement à ces personnes?
S'écouter en premier, mais aussi arrêter, j'ai vraiment un message important, arrêter d'idéaliser les histoires de mission de vie, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, me dire « moi je veux découvrir ma mission de vie », il faut arrêter d'idéaliser ça. Vous en avez peut-être plusieurs des missions de vie, vous avez peut-être une mission de vie en ce moment qui va changer.
Ouais.
Il faut arrêter d'idéaliser, parce que ça met une pression sur les gens qui veulent changer de travail, qui veulent se réorienter, et ils ont peur de ne pas trouver la bonne réponse ou la bonne mission. Donc ce que je dirais, c'est que le discours ambiant favorise beaucoup l'entrepreneuriat, favorise beaucoup le fait de se trouver, de trouver sa voie, de trouver du sens. Mais je pense qu'il faut relativiser ce discours-là et réinvestir le travail à sa juste place. Parce que, en fait, ce discours fait en sorte qu'on fait porter au travail une mission qui peut être beaucoup trop grande pour ce que c'est.
Ouais.
Relativiser ces discours-là. Oui, écouter son besoin de peut-être changer de travail, etc. Mais cela n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Ça peut être des petits pas, ça peut être des petits changements. Donc c'est vraiment un équilibre entre s'écouter, écouter ce malaise, mais aussi ne pas tomber dans l'idéalisation de la reconversion professionnelle.
Et c'est sur ce très beau conseil, Sana Belgache, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir partagé votre histoire. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci Karima, merci pour l'invitation.
Tout le plaisir est pour moi. Ciao, ciao, à bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.